Alors là, nous allons passer une discussion générale. Vous pouvez aller dans tous les sens. On va commencer par Eloi.
Alors, je vais aller dans tous les sens. On va commencer par vous poser une question un peu périphérique, mais à Patrick, parce que j'étais très séduite par, justement, ton appel vers une philosophie de la normativité et également à l'alliage interdisciplinaire potentiel avec des sciences empiriques, etc. Alors, un peu dans la foulée de ce que j'essayais de dire tout à l'heure, en même temps que, personnellement, je préconise une approche plutôt mémoriale dans mon domaine d'investigation, je crois aussi qu'il est extrêmement important de préserver l'indépendance, l'autonomie d'une démarche purement conceptuelle dans le domaine de la philosophie. Mais par ailleurs, quand on réfléchit sur l'avenir de la discipline académique de la philosophie dans les 10 prochaines années à venir, on a annoncé hier, c'est le vice-doyen de la Faculté des études supérieures, parce que je fais partie du conseil de la Faculté des études supérieures, et j'avais demandé une question à laquelle on m'a répondu hier. J'avais posé la question suivante: est-ce que nous pouvons envisager donc des doctorants constels entre des disciplines différentes? Et jusqu'à hier, en fait, la réponse était non. Et hier, on a annoncé que, en fait, l'Université de Montréal, le Conseil de la Faculté des études supérieures, va maintenant approuver des conventions de co-tutelle au niveau doctorat entre des disciplines distinctes. Et ils ont cité comme exemple le département de philosophie comme étant une des disciplines qui se prête le mieux à ce type d'échange interdisciplinaire. Mais par ailleurs, je sais, pour avoir déjà interrogé certains de mes collègues ici et ailleurs, que lorsque je propose l'idée que sur le plan de l'avenir des disciplines académiques, c'est une voie à suivre, je constate qu'il y a beaucoup de résistance. Et j'imagine qu'il y a une partie de cette résistance qui s'explique par des intérêts peut-être corporatistes, ou je ne sais pas trop, mais enfin, dans l'anticipation des préjudices que ça pourrait causer pour nos futurs doctorants. J'ai l'impression aussi qu'il y a des craintes par rapport à la contamination potentielle de l'indépendance de la philosophie. Mais que répondrais-tu? Comment tu envisagerais ce...
Si tu étais doyen.
Ben, d'abord, je prends des notes pour l'Université Laval. donc, est-ce que je répondrais à... C'est-à-dire, est-ce qu'on doit... est-ce que c'est... Il y a un danger de ce serait un autre exemple de Messin, en fait. Ben, je pense pas que je vais pas te donner une réponse très sophistiquée. Moi, je pense que j'irai tout à fait dans ton sens. J'ai une conception de la philosophie qui est très large et très ouverte. Je pense que c'est un des avantages de cette discipline, qu'elle peut se nourrir et entrer en dialogue avec toutes les autres. Je pense que je ne dirais que ça. Je pense que les craintes de salissage conceptuel sont malvenues et...
Alors, je te remercie. Je te préviens que je vais servir de ton argument de philosophie de la normativité pour pouvoir promouvoir encore plus...
Bonne chance.
Tu dois y croire.
Voilà. J'ai préparé une question pour chacun des...
On peut en poser aussi.
C'est bon, en poser aussi. Mais vous voulez vraiment les connaître. Alors, peut-être la question...
Il y a
Martin
aussi qui...
Je peux peut-être poser une question à Nigel.
Oui.
Si les valeurs sont un réseau comme ça, tu avais l'air de dire que tu voyais vraiment ça comme une toile... Qu'est-ce que tu vas faire des autistes qui, eux, n'ont pas peu d'empathie? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas de toile du tout, pas de réseau du tout? Ou est-ce que tu es prêt à concéder qu'il peut y avoir des toiles avec des trous dans le cas des autistes, notamment, qui ne font pas d'empathie?
J'ai pas encore lu la littérature est fascinante là-dessus, comme Barack Holm, comme Sean Nichols, mais selon ce que je sais, je pense que c'est ce que moi j'aimerais savoir, c'est en fait les conditions de possibilité pour une agentivité éthique, comme je dis normale, mais pas de manière comme exclusive comme ça de normative, mais juste comme si on a ça en main pour comprendre ça, on peut aussi comprendre. Normalement, on fait l'autre, on peut dans la psychologie morale va de les psychopathes et des autistes pour comprendre mieux ce qui est normal. Mais moi aussi, je pense, l'envers, je pense, est aussi intéressant, de comprendre comment, étant donné les meilleures conditions de famille, de communauté, de quoi que ce soit, comment est-ce qu'un agent va acquérir ses valeurs et la capacité d'agir automatiquement, moralement, dans beaucoup de cas. D'où ça vient? Et dans ce cas, l'empathie, je pense, est essentielle. Et je pense que là, c'est une exception qui Kershaw Nichols utilise exactement pour cette raison. Où il n'y a pas une distinction entre les règles conventionnelles et les règles normales.
Oui, il utilise des règles conventionnelles.
Oui.
Juste peut-être, c'était pour rebondir sur, sur cette excellente nouvelle que vient de nous apprendre et qui a été donc accueillie avec enthousiasme aussi par Patrick. Sur la question de l'interdisciplinarité, moi, ce qui me choque, c'est de la part des philosophes, c'est précisément que la philosophie est la dernière des disciplines dont on pourrait attendre cette réaction corporatiste, parce qu'à l'exception de l'ontologie, toute philosophie est philosophie d'autre chose que d'elle-même. Et donc, même la logique, quand on parle avec Yvon Gauthier, il va vous dire, qui est ici, fait de la logique mathématique, il va vous dire qu'il faut travailler avec des mathématiciens. Donc si vous faites de la philosophie de la biologie, l'idée de ne pas travailler avec un biologiste, ou si vous faites de la philosophie de l'art, de ne pas travailler avec des historiens d'art, ou de la philosophie politique avec des politologues, me semble extrêmement curieuse, d'autant plus qu'on constate que ces gens-là, dans d'autres départements, travaillent sur les mêmes choses que nous, souvent avec un vocabulaire différent, et souvent en s'ignorant les uns les autres. Moi, justement, cette double... ce double doctorat en philo et en Sciences Po. Et en Sciences Po, on voit des gens qui travaillent exactement sur la même chose, mais qui ne connaissent pas les philosophes, et vice-versa, et le vocabulaire n'est pas forcément le même. Et c'est extrêmement dommageable, parce qu'on se rend compte qu'on tourne en rond, et qu'on pourrait avancer beaucoup plus rapidement et s'enrichir mutuellement si on acceptait que ces gens-là se rencontrent. Mais il faut déjà qu'ils aient l'idée et l'envie de se rencontrer. Et je crois que la seule résistance, c'est une résistance corporatiste. Je ne vois pas en quoi il y a un risque de contamination quelconque. Il ne s'agit pas de préserver une pureté de la philosophie, c'est uniquement des intérêts individuels et de la territorialité et des gens qui veulent défendre leur précaré. C'est, à mon avis, rien d'autre que ça. Je n'arrive pas à identifier des résistances sérieuses à l'interdisciplinarité.
Oui, non.
Bien d'accord.
Bien d'accord. Marc Boulanger.
Moi aussi, je vais rebondir sur ce que dit Riloa. Quand on parle d'interdisciplinarité, on pense souvent les philosophes qui vont philosopher sur d'autres questions, mais aussi le cas contraire d'étudiants qui sont dans d'autres disciplines que la philosophie et qui sont intéressés à faire de la philosophie. J'ai un de mes anciens collègues au collège où j'enseigne qui a fait une formation de mathématiciens et qui a décidé d'aller faire de la philosophie des mathématiques. Mon cas, à moi en particulier, j'ai une formation de mathématicien et j'ai décidé de faire de la philosophie, non pas pour faire de la philosophie des mathématiques, parce que ça m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais j'ai comme passé par-dessus ça et j'ai réglé plein de questions concernant la philosophie des mathématiques. Ça m'intéressait plus après ça pour m'intéresser à la philosophie morale, qui était pour moi un autre défi. Mais je connais beaucoup de gens comme ça qui sont en train d'étudier dans d'autres disciplines et qui seraient intéressés à faire le pas vers la philosophie. Et donc pas seulement les étudiants de philosophie qui veulent faire de la philosophie politique avec un professeur de politique, etc. Donc c'est ça. Double mouvement là, et c'est une bonne nouvelle si jamais ça se concrétise.
Bien, je sais.
J'avais une question pour Sarah Stroud et pour le reste du panel. Donc, Sarah nous a dit que finalement il y a eu ce passé au fond consensuel en philosophie, en éthique fondamentale qui s'est étiolé dans les dernières années. Et j'aimerais avoir plus de précision. D'abord, j'aimerais savoir si tout le monde est d'accord sur le panel sur ce jugement-là, et si on pense que cette fin du consensus est quelque chose que vous voyez avec comme un vent d'air frais qui va mener à des recherches peut-être plus fécondes, qui va stimuler de nouvelles recherches, ou si plutôt la tentative d'un tête vite de retrouver un nouveau consensus sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez ça comme étant plutôt un problème ou une bonne nouvelle?
Bonne question.
C'est une question pour le panel, quoi. Ben, personnellement, je trouve que c'est un développement très intéressant. Je suis plutôt pour que contre, parce que juste au niveau personnel, j'étais jamais trop en faveur de l'idée que le bien absolu ou le bien impersonnel, c'était comme le concept roi en éthique. Donc, pour moi, personnellement, c'est une bonne nouvelle que ça se questionne maintenant. Et en plus, personnellement, je trouve très utile d'introduire d'autres discours dans le discours éthique pour peut-être mieux focaliser nos pensées. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Je ne sais pas si on va arriver à un nouveau consensus. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça se fragmente de plus en plus. C'est pas forcément mauvais, ça. C'est peut-être qu'il y a des éclaircissements qui viennent de chaque coin, là, qui nous aident à mieux penser. Donc, pour moi, c'est plutôt positif.
D'autres réactions? Monsieur, je prie.
Oui, je ne sais pas si ce serait une question ou une suggestion pertinente, mais quand même, vous pouvez la proposer. Vous ne croyez pas qu'il y a déjà un problème fondamental, ontologiquement fondamental, fondamental d'ontologie plutôt, dans le sens où la réalité morale que l'on considère est une réalité qui est soumise à la séparation pratiquement radicale entre le subjectif et l'objectif. Et si, déjà, on veut, et déjà c'est ce que j'ai pu déjà saisir dans pratiquement toutes les interventions, c'est que il y a quand même une certaine dimension interpersonnelle qui joue un certain rôle dans nos jugements moraux ou dans notre conception de la question morale. Est-ce que, donc, serait pas à quel point déjà la considération de l'intersubjectivité et de donner une assise assez forte ontologiquement parlant, donc, à l'intersubjectivité, ça pourrait ramener des éléments pertinents déjà à la compréhension de la réalité morale. Est-ce que c'est clair comme d'habitude?
Moi, je veux bien y aller, mais c'est une question large. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles on fait de la métaéthique, c'est-à-dire que parmi les tensions qu'on retrouve en métaéthique, il y a cette fameuse tension entre des théories qui vont chercher à préserver l'objectivité de la morale, mais qui ont parfois de la difficulté à rendre compte de certains des aspects subjectifs, notamment le fait qu'un jugement moral semble me motiver personnellement à agir d'une façon ou d'une autre. D'autres théories, j'arrive à l'intersubjectivité, d'autres théories plutôt subjectivistes vont préserver ce caractère que l'on dit pratique de la morale, mais parfois au dépens de l'objectivité. Puis on arrive avec des propositions qui essaient parfois de faire de ménager la chèvre et le chou avec l'idée d'intersubjectivité, mais c'est mais il y a toujours la question de savoir comment dans une intersubjectivité l'objectivité que l'on associe à la morale que l'on veut distinguer de simple norme sociale peut vraiment émerger. Mais c'est des questions hyper compliquées, puis c'est là-dessus que l'on que les gens qui font de la métaéthique se penchent.
Ce que je voulais dire, c'est la conception même de l'objectivité, de la subjectivité qui devrait être reconsidérée à la lumière d'une certaine, et là peut-être bien, conception de l'intersubjectivité. C'est une intersubjectivité qui est véhiculée, entre autres, par une toile, déjà, où on ne peut pas dissocier la pensée de la réalité et du langage. Parce que si moi j'entre dans la salle au milieu de la présentation de Nigel, si on ne disait pas qu'il parlait déjà de l'éthique fondamentale, je croirais qu'il parlait du langage.
Un collègue en économie m'a déjà dit dans une table ronde où l'économie était critiquée, c'est. Vous savez, c'est compliqué l'économie, hein. C'est, j'ai envie de vous dire.
De répondre un peu. Est-ce qu'il y a d'autres. Je vais passer la parole aussi aux autres. Table rondiste, une théorie intersubjective qui vient
d'être. Là, c'est. L'intersubjectivité est essentielle à cette approche où c'est utilisé. ça va utiliser aussi les idées d'intersubjectivité dans les sciences cognitives et le développement de l'enfant. Et on distingue comme trois sortes d'intersubjectivité qui commencent même avec l'enfant, le bébé qui imite tout de suite et reconnaît le visage de son primary caregiver. Mais la chose avec la langue, c'est aussi important parce que on reconnaît aujourd'hui que, peut-être vous connaissez les théories là-dessus, qui est fascinant, que c'est impossible d'apprendre une langue sans avoir, ce sont les Michael Tomasello qui a rendu ces théories célèbres, c'est impossible d'apprendre une langue sans avoir des relations empathiques déjà installées. On peut pas juste, c'est essentiel d'avoir des scènes d'attention jointes. Et c'est la même chose, je pense, exactement la même chose avec la morale et ce tissu de morale, et encore plus parce que c'est là, c'est pas seulement une condition de possibilité, l'empathie, mais l'empathie aussi forme l'empathie de l'enfant dans le sens de ses propensions motivationnelles, ce qui n'est pas le cas avec les mots d'une langue ou même les concepts perceptuels. Parce que McDowell pense aussi que cette communauté est sociale. Mais c'est encore plus important pour l'acquisition d'une toile de morale.
On va avoir une dernière question.
Et je ne sais pas si la question est assez totale. C'est, en fait, c'est une question pour Mauro, qui est en lien avec l'intervention de Rioa, donc au moins que ça boucle la boucle. Je me demandais pour le genre de recherche que tu poursuis présentement, quel est le lien avec les sciences expérimentales, entre autres la psychologie expérimentale. Il y a tout un champ de la psychologie maintenant qui nous dit qu'il faut cesser de simplement se préoccuper des conditions du mal-être, hein, ou des pathologies, différents problèmes d'ordre psychologique, puis que l'on doit faire des recherches sur les conditions du bien-être. Puis lorsqu'on regarde cette littérature-là, donc basée sur des recherches expérimentales, on voit par exemple que les plaisirs, hein, donc la thèse hédoniste dont tu parlais tout à l'heure, ont un impact assez mineur sur le bien-être des agents. Donc ça va une petite contribution, mais moins que d'autres sources du bien-être, comme certaines relations significatives ou l'idée du sens ou d'avoir des engagements ou qui transcendent notre intérêt subjectif, et ainsi de suite. Donc la question générale, c'est est-ce que pour ton genre de recherche, donc il faut s'inspirer ou en tout cas s'abreuver de ces recherches expérimentales-là? Et si oui, il n'y en a pas qui, déjà, on peut éliminer certaines thèses, par exemple la thèse hédoniste qui semble avoir été invalidée par des résultats empiriques.
J'aurais la tendance à répondre si la prémisse est que le plaisir ne contribue pas au bien-être, c'est qu'on a déjà clarifier ou déterminer ce qu'est le bien-être. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il y a peut-être un travail conceptuel à faire qui est relativement autonome. Mm-hmm. Et après lequel, effectivement, la recherche empirique devient extrêmement pertinente. Mm-hmm. Ouais. C'est très bref.
Avant de remercier notre panéliste, ce que j'aimerais faire, c'est en fait commencer par les remerciements pour ceux qui ont rendu possible ce colloque. Vous, par votre présence jusqu'au dernier moment, mais surtout ceux qui ont mis la main à la pâte, Jean-Philippe Royer, qui est peut-être en quelque part. Giroux qui a dû nous quitter, et Alexandre Chabot-Bertrand qui s'est occupé des choses pratiques. Mon cher collègue Peter Nitsch qui a supervisé cette organisation de manière merveilleuse. J'aimerais beaucoup le remercier. Et finalement, nos tables rondistes pour cette dernière prestation, un vendredi soir pluvieux du mois de novembre.
Merci à toi.
Merci.
Merci Christine.
Merci Christine.
Merci Christine.
Merci Christine.